This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là donc, 1974, cinq années après le choc des événements de mai 68. La société civile aspire à de très nombreuses formes d'émancipation partielle. Cette année-là, à cause du décès du président de la République en exercice, ce sera une année cruciale pour la France. Georges Pompidou a succédé au général de Gaulle après son départ en 1969. Alors qu'il est malade depuis 1968. Comme quoi, le François Mitterrand ne sera pas le premier malade que nous aurons élu. Les Français le voient décliner à la télévision et il décédera d'une septicémie le 2 avril 1974 alors qu'il était atteint d'une maladie rare, la maladie de Waldenström. Le président du Sénat assure donc l'intérim, comme prévu par la Constitution, et organise de nouvelles élections. C'est une situation totalement inédite. Après une lutte acharnée au sein des partis de droite, c'est finalement Valéry Giscard d'Estaing qui sera opposé à François Mitterrand et qui va l'emporter. C'est donc une droite libérale, au plan des mœurs, qui va gouverner et surfer sur des revendications progressistes, paradoxalement. La liberté des mœurs et liberté économique vont se conjuguer. Deux femmes clés vont entrer au gouvernement. Simone Veil sera ministre de la Santé et Françoise Giroud sera secrétaire d'État à la condition féminine. On ne parle pas encore, hélas, de droits, mais de conditions. Sous la poussée du MLAC, organisation féministe, et de toutes les autres organisations féministes, le président Valéry Giscard d'Estaing va demander à Simone Veil de préparer une loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Son coup de génie sera de faire présenter cette loi comme un problème de santé publique par Simone Veil au lieu de le faire présenter par Françoise Giroud, ministre secrétaire d'État donc à la condition féminine. Alors plusieurs événements se sont produits avant qu'on arrive à la présentation de cette loi. Il y a des précédents. Le premier d'entre eux, c'est la loi Neuwirth sur la libéralisation de la contraception qui ne devient plus une chose illégale, qui aura été votée en 67, mais dont les décrets d'application n'interviendront qu'en 72. Il aura fallu 5 ans pour que la droite admette, bon gré mal gré, que la contraception est une chose légale. Il y aura ensuite le manifeste des 343, le 5 avril 1971. 343 femmes, signent un manifeste intitulé « Je me suis fait avorter », rédigé par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Suivra en 73 le manifeste des 331. Ce sont 331 médecins qui se disent favorables à l'IVG et déclarent l'avoir pratiqué pour des raisons humanitaires. C'est probablement le procès de Bobigny en octobre-novembre 72 qui eut un retentissement très important et qui a modifié un petit peu la donne. 5 femmes y étaient jugées pour avortement, dont une jeune fille qui donc avait eu recours à ce moyen après un viol. Maître Gisèle Halimi assurera la défense de la jeune femme et celle-ci sera relaxée. L'association Choisir, présidée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, va amplifier l'impact de ce procès vis-à-vis de la loi pénale qui date quand même de 1920. Il restera de tous ces événements un livre, réédité en 2006 par Gallimard, et un film réalisé en avril 2006, auquel on peut encore se référer. Je vous propose d'écouter la présentation qu'a fait Simone Veil en préambule, dans le préambule de la loi, qu'elle présentait à l'Assemblée nationale avant de se faire traiter d'avorteuse et de criminelle.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception
l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Il aura fallu en tout cas beaucoup de courage à Simone Veil, jeune ministre qui vient d'être nommée, que d'aller défendre cette loi devant une assemblée exclusivement ou quasi exclusivement composée d'hommes. Ce vote à l'Assemblée nationale fera l'objet de débats houleux, les noms d'oiseaux vont fuser et elle-même, Simone Veil, sera accusée de choses horribles. Y compris, on fera des comparaisons avec le régime nazi quand on sait qu'elle a été elle-même déportée. On s'aperçoit qu'il lui aura fallu quand même avoir les nerfs très solides pour supporter le débat à l'issue de ce discours. Alors la loi sera adoptée grâce à la presque totalité de votes des députés des partis de gauche et du centre, quelques députés de droite, mais une opposition assez nombreuse des députés de la droite. Et donc la loi sera promulguée le 17 janvier 1975, elle dépénalise l'avortement dans certaines conditions. L'entrée en vigueur est prévue initialement pour une période de 5 ans, il y a une sorte de période probatoire. Elle sera confirmée en 1979 par Madame Monique Lepelletier qui donc présentera la confirmation et les choses seront a priori réglées de manière définitive. Sauf que jusqu'à ces derniers jours, on assiste à des tentatives de contestation de cette loi et des tentatives de retour en arrière. Alors la personne qui a l'écrivaine, la philosophe, qui a le plus inspiré ces revendications féminines qui se sont poursuivies à travers cette loi, mais qui avaient commencé bien avant et qui se poursuivront malheureusement bien après, eh bien c'est Simone de Beauvoir. Alors Simone de Beauvoir, je vous propose d'écouter une interview réalisée par Jean-Louis Servan-Schreiber où elle explique en quoi on ne naît pas femme, mais on le devient.
Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière,
C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu?
Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
Voilà, donc le combat devait continuer jusqu'à récemment et il n'est pas terminé. Il convient de signaler que, encore une fois, ce qui est acquis risque d'être remis en cause par des mouvements rétrogrades actuels. Alors cette année-là, 1974, eh bien, une grande dame du jazz fête ses 57 ans et une télévision européenne, la télévision néerlandaise, va lui consacrer un concert dans lequel elle va pouvoir exprimer l'intégralité de son talent. On l'appelle à ce moment-là la First Lady of Jazz et donc va exprimer toutes ses capacités, sa finesse d'interprétation. Je vous rappelle qu'elle a obtenu durant sa carrière 13 Grammy Awards, ce qui n'est pas rien. Alors, c'est une chanteuse assez exceptionnelle puisque la tessiture de sa voix couvrait 3 octaves, ce qui lui donnait des possibilités d'expression assez étonnantes. C'est en plus une improvisatrice assez étonnante qui a une aisance qui se manifeste notamment lorsqu'elle chante en scat, c'est-à-dire avec des onomatopées. Alors l'extrait que vous allez entendre, c'est donc un extrait de ce concert de son anniversaire, enregistré donc par la télévision néerlandaise. Et ce sont 2 morceaux, un morceau très rythmé sur lequel elle va improviser en scat précisément, « I don't mean a thing ». Et puis elle enchaîne avec « The Man I Love » dont elle donne 2 interprétations tout à fait différentes.
It don't mean a thing if it ain't got that ring. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Make no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. I gotta have melody, I gotta have music, anything to make it sweet. Come on with that melody, come on with that music, just don't make it complete. But it's a little bit.
boua, 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 boua.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. That's soon to be released on one of our albums. Not like that. Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best, I'll do my best to make him, make him, make him, make him, make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand, and in a little while, take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for, I'm waiting for the man I love. That day you come along, the man I love, and he'll be big and strong. Thank you.
on waiting for my man. My man don't love me, treats me oh so mean. My man don't love me, treats me oh so mean. He's the meanest man I ever seen. Oh, my man is from Amsterdam. He deals in diamonds. I dig that man, oh, that crazy man. Oh, I love that man. Oh, I dig that man. Tell me all about my man, Keeter. Yeah? He even has emeralds? Really? Oh, that dirty old man.
The thrill of the thought that you might give a thought to my prayer cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine has the ghost of a chance in this crazy smile that makes my temper
You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't the ghost of a chance in this crazy romance. You go to
Ainsi s'achève ce premier épisode de l'année 1974. Nous parlerons plus tard de Françoise Giroud, autre femme importante de cette année-là, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.